Est-ce qu'ils sont ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
Croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver?
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Wow!
Radio.
Radio.
Radio. Radio.
Pirate.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Pirate. J'espère que vous êtes prêts à voguer sur les territoires inconnus des personnages de fiction. Donc ce soir, on parle en compagnie de Alissa.
Bonjour.
Et de Ellie.
Bonsoir.
Et donc, on va parler personnages de fiction, films, romans, séries, BD, comics et mangas. Certains personnages ont peuplé notre enfance, accompagné notre adolescence et habitent encore aujourd'hui nos esprits d'adultes. Et on se rend compte que parfois, elles et eux ont transformé nos vies et nos pensées. Est-on gauchiste à cause de Fantomette ? Est-ce que je déteste la prison grâce à Andy Dufresne, du film Les Évadés ? Ou est-ce que Buffy Summers a influencé ton féminisme? C'est des questions auxquelles nous ne répondrons pas dans cette émission, mais on va répondre sans doute à d'autres.
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Wow!
Je vais commencer par un petit tour de table avec mes deux amis pirates. Avec ça, je prends dans l'ordre alphabétique. Quel est pour toi, voilà, il y a deux A, mais dommage. Quel est pour toi un personnage, pour commencer, qui te vient en premier quand tu analyses qui tu es, tes idées politiques, tes valeurs?
Ouais, moi, vu qu'on parle de politique, je pense que un des personnages de fiction qui m'a le plus influencé politiquement dans mon jeune âge et encore maintenant, ça a été le personnage de V pour Vendetta.
Eh bien, et toi, Ellie, même question, quel personnage, un premier personnage qui t'a comme ça formé un peu le cerveau?
Je préfère être un porc que d'être un fasciste, le porco rosso bien sûr.
Voilà, donc ce soir on convoque Alan Moore et Miyazaki. On est comme ça, on a le panthéon que l'on veut, et on a peur de personne ni de rien. Voilà, et on va se lancer une petite capsule. C'est Juliette qui nous parle de ces personnages.
Bonjour Juliette, tu te considères comme une femme féministe. Est-ce que pour toi, il y a un ou des personnages de fiction qui ont modelé ce féminisme?
Alors, la première idée qui me vient en tête, là, c'est les héroïnes de Jane Austen. Parce que j'ai découvert les romans de Jane Austen quand j'étais même avant l'adolescence, vers 10-11 ans. Et c'est des personnages qui m'ont tout de suite émue et fascinée et auxquels j'ai voulu ressembler.
Parmi ces personnages, il y en a une qui émerge un peu plus?
Alors oui, hein, de manière assez classique, mais je pense que c'est un personnage qui a touché beaucoup de jeunes filles. C'est le personnage de Lizzie Bennet, le personnage principal d'Orgueil et Préjugés.
Et pourquoi particulièrement elle et particulièrement avec le féminisme?
Lizzie, c'est une jeune femme qui a 19 ans, qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est une jeune femme qui s'exprime, qui lit beaucoup, qui est très cultivée, très intelligente, qui a voilà, la réplique qui fuse et qui ose donner son avis. Et c'est aussi une jeune femme qui ne cherche pas à tout prix un homme pour se caser, même si elle est pauvre et elle sait qu'elle n'aura pas accès à un gros patrimoine parce qu'elle est une femme. Ça, c'est aussi très lié à l'histoire de l'Angleterre. Donc ouais, tout ça mis bout à bout, c'est un personnage assez exaltant et émancipateur, je pense.
Ton féminisme doit à Elizabeth Bennet.
Je pense que ça a été très inconscient, mais c'est vrai que quand j'y réfléchis, j'admirais beaucoup son franc-parler, parce que moi, j'étais une fille assez timide et tout le temps fourrée dans les livres. Et j'admirais beaucoup ouais, le fait qu'elle ose s'opposer aux hommes, surtout, parce que il est surtout question de ça. Et peut-être qu'elle m'a aussi donné la force de m'opposer, moi, dans certaines situations, face à des blagues sexistes, de dire que je trouvais pas ça drôle, face à des réflexions déplacées dans mon travail, ou des gestes dans le métro, dans la rue. C'est vrai que j'ai rarement peur de dire non, quoi, sur des choses comme ça, et de prendre la parole. Donc ça, peut-être que je lui dois un petit peu.
Merci, Juliette.
On vient d'écouter Juliette qui nous parlait d'Elisabeth Bennett. Alissa, pour revenir vers toi, même question un peu que pour Juliette. Ce personnage, V pour Vendetta, c'est le nom du bouquin, je ne sais plus quel nom le personnage exactement, peut-être tu sauras nous le rappeler. Pourquoi il t'a influencé et sur quoi il t'a influencé?
Alors, tu vas être hyper surpris, mais donc du coup le nom du personnage c'est V. je dirais que il m'a influencé beaucoup politiquement, parce que je pense que ça a été mes premiers pas vraiment dans une politisation de gauche et donc plus particulièrement anarchiste, puisque l'histoire du comics se passe dans une Angleterre dystopique qui a sombré dans le fascisme, dans un fascisme profond après une guerre nucléaire, voilà, de joyeuseté. Et donc le personnage de V est un personnage masqué qui a été traumatisé par les exactions de ce gouvernement et est devenu un terroriste anarchiste qui fait tout péter avec un masque de Guy Fawkes. Donc voilà, je ne suis pas une anarchiste qui fait tout péter avec un masque de Guy Fawkes, mais ça m'a influencé déjà dans la radicalité politique, et aussi parce que pour moi ça a été une espèce de contre-pied aux super-héros un peu classiques, qui sont des figures un peu pas dénuées d'ambivalence, mais qui sont toujours dans le bien, alors que il y a eu une espèce de notion de on suit les exactions d'un terroriste, mais qui commet des actes terroristes et qui nous paraîtrait moralement répréhensible dans notre monde, mais dans un monde fasciste qui commet vraiment les pires exactions, et la BD est assez trash sur ce qui est montré, ça nous paraît pas si grave. Vas-y Francky, tu peux tout faire péter. Voilà, donc pour faire un petit peu court. Et du coup, peut-être parle-nous de toi, ton personnage qui t'a marqué.
Moi, c'est vrai que c'est un personnage sans doute plus connu, mais dans une facette qui me semble un peu trop lisse. C'est le personnage à la fois de Spider-Man, mais à la fois le personnage de Peter Parker, puisque c'est une seule et même personne, hein, mais habillée différemment. Et c'est par deux côtés différents. C'est vrai que les films ne le montrent pas tellement, mais Peter Parker, il est ici d'un milieu très populaire, hein, dans la BD. Il vit avec sa tante qui a pas de fric. Lui-même n'a pas de fric. Quand il acquiert ses pouvoirs, d'ailleurs, au tout début, il se dit qu'il va pouvoir se faire de l'argent. Jusqu'à la malheureuse et bien connue histoire du meurtre de son oncle qui meurt et qui lui rappelle que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et pour moi, c'est à la fois politique. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est totalement politique quand on a de l'influence, quand on a du pouvoir. Hein, il n'y a pas plus définitif que ce mot. Il faut savoir le manier et il faut savoir le manier de manière juste. Pour revenir un petit peu ce dont on parlait avec le gouvernement fasciste, il ne le fait pas de manière juste. Et puis c'est un mec qui aussi abandonne parfois le coup. Et puis c'est un mec qui abandonne le costume parce que parfois, eh ben, il a pas de fric, tout simplement. C'est un truc assez ouf. Hein. Et c'est pas, il y a pas que ce personnage. Hein, dans d'autres BD, on est loin de Iron Man qui surfe sur des billets, hein, parce que le mec, il vit littéralement dans les billets, alors que c'est pas le cas de Peter Parker, qui vit en vendant des photos de Spider-Man ou Dailybug, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est un personnage pour moi qui est pas aussi lisse que ce que les films en ont montré. Et dans la BD, il est un peu plus ouvert. Bon, on va passer à quelqu'un d'autre que moi. Et toi, Ellie, tu nous parlais de Porco Rosso. Bah, dis-nous tout. Pourquoi Porco Rosso?
Je pense que, genre, dans mon enfance, j'ai toujours un grand rêve, c'était celui de voler. Alors, pas avec un avion, mais genre voler de mes propres ailes. Et je savais bien que c'était pas possible, mais je m'imagine dans les rêves. Et du coup, je voyais Porco Rosso, je voyais cet étrange personnage qui est en fait un porc et qui est le seul dans son milieu qui vole aisément. Et du coup, plus en grandissant, en fait, je l'ai même revu il y a pas très longtemps, il y a quelque chose comme 6 mois, et j'avais revu que ouais, c'était quand même un sacré idéal anarchiste finalement, puisque enfin un idéal communiste, même, parce qu'il était dans l'armée et il refuse de continuer à servir l'armée quand il y a Mussolini qui arrive au pouvoir. Enfin, c'est pas dit que c'est Mussolini, mais c'est sur le fascisme et qui c'est la montée du fascisme. Et du coup, il décide de s'appeler Porc Rouge, ce qui est évidemment du sarcasme, parce que c'est comme ça qu'on désigne un peu les communistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, c'est un chasseur de primes. Et ça aussi, ça me faisait rêver parce que c'était de la redistribution de richesses. Et c'est la première fois de ma vie, je pense que, enfin, quand j'étais jeune, c'est la première fois de ma vie, j'avais réfléchi. Mais est-ce que ces riches-là, comment en fait ça se fait que, genre, il y a la guerre mondiale littéralement, et comment ça se fait que ces riches, ils se payent un petit trip avec des cocktails et ils vivent leur meilleure vie pendant qu'il y a des gens qui meurent au front, quoi. Alors qu'on m'avait appris quand j'étais petite, il y a eu des millions de morts, enfin. Il y a eu les camps de concentration, et moi je comprenais pas comment ces gens-là, ils vivaient hors de tout ce conflit, en fait. Ils vivaient dans le luxe, quoi. Et du coup, c'est ça qui m'a beaucoup plu, en fait, dans ce personnage, je pense, étant jeune.
Merci pour ce petit pour le témoignage. C'est vrai que on est tous les trois des gens, je suppose, de gauche. Hein. On est bénévole à Radio Pirate. Et... Et c'est sans doute lié à tout ça qui nous a formés. V pour Vendetta, il y a aussi un personnage féminin, Alissa. Je me souviens pas trop de la BD, hein, je te l'avoue, mais pourquoi c'est pas ce personnage qui t'a touché, qui pourtant me semble être un peu en rupture dans cet univers-là? Est-ce qu'il y a des choses qui ne t'ont pas plu dans ce personnage ou qui t'ont plus dans le personnage de V?
Ouais, tout à fait. Bah, donc oui, il y a un personnage féminin, c'est Evie dans V pour Vendetta. Et qui, alors je saurais pas exactement l'analyser, je dirais bien que s'il y a une espèce de quête initiatique, mais pas, enfin plus une espèce de d'émancipation. Donc c'est un personnage qui, au tout début de l'histoire, on la voit se maquiller, machin. Donc l'univers nous est présenté au travers d'une émission de télé. Si vous avez vu le film, il me semble que c'est la même introduction. Elle se prépare à aller à une espèce de rendez-vous galant, mais on comprend que c'est plus ou moins une forme de prostitution qu'elle allait faire, quoi. Et en gros, elle se fait attraper par la police. Qui commence à vraiment essayer de la violenter, et elle se fait sauver par V, et c'est là que commence l'histoire, et qu'elle est affiliée à ce personnage-là. Et il y a donc, ouais, en effet, il y a un personnage féminin. Pour autant, je pense pas que ce soit quelque chose. Enfin, je pense pas que V pour Vendetta soit une œuvre profondément féministe, même si ça a tendance à mettre en avant des dérives profondément machistes de notre société en l'exagérant encore plus dans donc une société fasciste. Mais je pense que là où le personnage de Evie donc est très intéressant, c'est dans l'émancipation progressive qui, je trouve, est super bien rendue dans la BD. En fait, au début, elle est très très réticente aux agissements anarchistes de V, parce que c'est un produit du système fasciste allié depuis qu'elle est toute petite. Et malgré le fait que ce système lui ait tout pris, elle lui a pris ses parents, elle lui a pris sa liberté, et tout ça, elle refuse de le remettre en question pour sa sécurité, mais aussi, pour une espèce de... Elle est bloquée dans une espèce de routine, et c'est de ça qu'elle va progressivement s'émanciper au cours du truc. V, donc, y étant pour beaucoup. Moi, je pense que, tout simplement, en fait, ce qui m'a plus plu dans le personnage de V, pourquoi j'ai pas pris celui de V, qui est, je pense, le réel personnage principal de cette BD, c'est que V, c'est un idéal. Il a pas de visage, il a juste un masque. Et c'est vraiment, genre, c'est l'idéal anarchiste, en tout cas pour l'auteur, pour donc Alan Moore. Et c'est une figure presque un peu monolithique, qu'il devient un peu moins à la fin. Mais c'est... Comment dire? Ouais, c'est ça. Déjà, en clair, c'est une figure de super-héros, donc ça fait rêver. Moi, ça m'a énormément fait rêver quand j'étais petite. Alors oui, d'ailleurs, j'étais petite quand j'ai été exposé à ce truc-là. Exposez pas ça à vos enfants, hein, c'est trash. Hein. Ça parle de camp de concentration, de fascisme. Enfin, c'est... Voilà, ça pique. Mais bon, voilà, moi, je l'ai vu sous les yeux. Et voilà, je pense qu'il y avait une figure de super-héros et de vraiment de... c'est un peu le fin mot de c'est V est une idée, c'est un ouais, voilà, c'est ça, c'est une espèce d'idéal politique qui, même si je le visualisais pas comme étant un idéal politique au moment où j'ai lu le truc, bah il y a quand même un effet waouh de la découverte du personnage et voilà, c'est, je pense que c'est pour ça que j'ai plus été marqué par V que par Evie, même si les deux personnages sont complètement complémentaires dans l'œuvre et l'un va pas sans l'autre.
D'une certaine manière, si je te comprends bien, c'est parce que V, il est presque pur dans la représentation qu'il est, que ça a été plus facile pour toi de le voir comme un espèce d'horizon ou d'ambition, alors que Evie est trop humaine et trop identifiée avec une vraie personnalité pour qu'elle t'inspire, quelque chose comme ça.
Ouais, moi je pense que le personnage d'Evie, c'est le personnage auquel on s'identifie, et le personnage de V, c'est le personnage qu'on admire. En tout cas, quand peut-être qu'il y a des gens qui diraient le truc et qui se diraient, mais quel connard ce V, il fait sauter des meubles, enfin il fait sauter des bâtiments en ruine, mais
Ériper les fenêtres. Ouais.
Bah ouais, c'est ça. RIP aux familles des vitrines.
Des vitrines, tout à fait.
Non, mais enfin, ceci dit, il tue des gens aussi. Bon, voilà, il faut pas non plus des gens qui sont des nazis, mais des gens quand même.
RIP les nazis également, alors.
Voilà, soutien aux familles des... Ouf. Ouais, je vous ai compris, quoi.
C'est, voilà, on laisse le flou et les gens entendront ce qu'ils veulent.
Voilà. Vous complétez avec ce que vous voulez.
Et toi, Élie, tu nous as parlé de Porco Rosso. Pour préparer l'émission, tu nous as parlé d'un autre personnage que je trouve aussi très intéressant parce que finalement, il est moins connu et peut-être moins charismatique, mais il t'a touché. Est-ce que tu veux bien en parler ?
Oui, je veux bien. Alors, je pense que le point commun entre les deux, c'est l'énorme cynisme et le sarcasme dont ils font preuve. Et je fais preuve de cynisme et de beaucoup de sarcasme après de ma propre vie. Du coup, le second personnage, c'était Carlos de Bob l'éponge, que je connais malheureusement qu'en allemand. Donc, je sais pas s'il est tout aussi pertinent en français, mais on va dire que oui. Et du coup, Carlos, en fait, c'est un peu la métaphore d'un artiste raté qui pensait pouvoir changer le monde avec l'art et qui a beaucoup de talent, hein, qui a un talent incroyable, parce que quand il commence à jouer, on voit qu'il est très bon, et quand il a ses toiles, on voit qu'elles sont belles aussi, mais que personne ne le comprend. Et en fait, c'est une question de contexte, en fait. C'est peut-être aussi un anarchiste, finalement, Carlos, puisque il valorise plutôt l'art, il est là pour faire du sabotage, au final, de son travail, du capitalisme, mais il le fait avec aussi beaucoup de mauvaise foi, hein, genre quand il est salarié, et il déteste absolument son quotidien. Mais quand il est chez lui et qu'il peut s'exprimer, il est une toute autre personne. Et c'est ça, je pense, qui m'a touché quand j'ai vu un petit peu de Bob l'éponge. Alors évidemment, tu vois pas les épisodes dans l'ordre. Tu vois pas les épisodes dans l'ordre, donc tu peux pas comprendre en fait la vraie histoire qu'il y a, parce qu'ils sont complètement désaxés. Enfin, tu vois, ils sont complètement désarticulés les épisodes. Et du coup, c'est dans ça que j'ai beaucoup aimé Carlos, je pense, et qu'il m'a marqué aujourd'hui, et que j'ai encore envie de regarder Bob l'éponge. Alors après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a un paradoxe avec Bob l'éponge, c'est qu'il y a énormément de mèmes qui viennent de Bob l'éponge et qui sont qu'il y a un énorme retour critique. Mais Bob l'éponge, c'est pas deux saisons, c'est pas une saison, c'est beaucoup plus. Il y en a en fait 24. Et l'essentiel des mèmes, elles viennent des deux, voire trois premières saisons, parce que c'est les saisons qui ont le plus marqué en fait les gens. Et c'est en fait, elle n'était pas prévue pour tenir plus longtemps la série. Et c'est à cause de son retour, son accueil critique absolument exceptionnel et son auditoriat. Je ne sais plus comment dire, mais le nombre de personnes qui regardaient en fait, qui a fait en sorte qu'il y a plus d'épisodes qui a été produit. Mais du coup, dans la tête des fans. Et dans la tête des gens qui connaissent les mèmes de Bob l'éponge, ils viennent effectivement des deux premières saisons, ce qui est assez étonnant. Voilà, pour mettre un petit peu d'éléments en forme pour vous. Voilà.
Je ne pensais pas avoir affaire à une spécialiste totale de Bob l'éponge, mais c'est bien. Ah, Radio Pirate, c'est des talents cachés.
C'est parce que j'ai vu une vidéo de une heure, je crois, qui expliquait tout Bob l'éponge, et j'en suis sorti pas indemne du tout.
L'une est transfigurée par V par Vendetta et l'autre par Bob l'éponge. C'est on n'en dira pas plus, on laisse ça pour nos intimités. Et c'est vrai que, pour revenir sur Spider-Man et Peter Parker, hein, pareil, hein, y a pour toutes et tous des rapports compliqués à des personnages, parce qu'en plus ils sont rentrés dans la pop culture et ils ont été repris et voire ripollinés, quoi. V pour Vendetta, c'est une BD qui est devenue un film en plus avec Natalie Portman, quoi. Donc c'est pas n'importe qui, ça a été un petit peu un carton. Natalie Portman chauve, voilà. Oui, ça a été dit. Bob l'éponge, ça a commencé en effet comme un espèce de dessin animé un peu zarbi, puis ça a pris un essor assez monstrueux. Ça ressemble un peu. Ah, il y a eu un film.
Ah, le film, je l'ai vu au moins 50 fois. Mais il y en a d'autres qui sont sortis. Mais moi, je parle du premier film que j'ai vu vraiment 50 fois. À chaque fois, je le voyais avec ma famille quand on était on se rassemblait. C'était la première chose qu'on faisait. C'était, est-ce qu'on regarde Bob l'éponge? Bah ouais, allez. Du coup, je connais encore les chansons par cœur, évidemment.
Ouais, ouais. Et moi, j'ai eu droit à 18 films. Tout se passe aussi bon les uns que les autres, sauf le futur là qui a l'air vraiment ouf. Pour ceux qui ont suivi, il va y avoir tous les anciens Spider-Man dans le nouveau Spider-Man. Moi, je suis fou.
C'est lequel ton préféré d'ailleurs? C'est lequel ton préféré?
Écoute, en termes de film, mon préféré, moi après c'est une question de génération, mais c'est le premier, hein, c'est Tobey Maguire. Le mec, il a vraiment. En plus, moi je trouve que Tobey Maguire, il a un peu une tête de cul. De cul. Et ça fait un gros décalage avec le personnage qui est hyper fun. Et c'est ça, Spider-Man, c'est Peter Parker, c'est un loser. Et quand il endosse son truc, il devient un peu foufou, tu vois. Mais il a une vie claire.
C'est lui ton meilleur Peter Parker. Parce que je sais que ça, c'est. Là tu risques gros en disant ça, je pense. Tu risques très gros.
On a peur de rien. Lui à Tobey Maguire. Voilà, je le dis. Pour revenir à ça, j'ai pas du tout. J'aime bien Tom Holland en Spider-Man, mais je n'aime pas comment le personnage est présenté, puisque dans le nouveau Spider-Man, c'est Iron Man, Tony Stark qui est son mentor, et c'est et qui est un peu sa conscience ou un truc comme ça, sauf que dans les BD, c'est Spider-Man qui a la conscience de l'univers Marvel, parce que c'est le super-héros de quartier, c'est-à-dire il vit, un des pseudonymes de Spider-Man, c'est votre voisin amical Spider-Man, parce que Spider-Man, c'est vraiment le personnage qui est dans les ruelles, dans les petites rues avec Daredevil. Il est au quotidien, il aide les petites gens, alors qu'Iron Man, c'est un mec, il a ses gros trucs, ses grosses voitures, ses gros costumes, ses gros billets, il fait sauter tout ça. Et donc, dans le film, le fait d'avoir fait de Iron Man la conscience de Spider-Man, on en inverse complètement dans la BD, où la BD, c'est Spider-Man qui est la conscience de tout le monde.
Tu parles voilà.
Ouais, du Spider-Man de Avengers. Et donc, pour moi, c'est une vraie... je trouve que c'est une vraie... comment dire... crapulerie fait au personnage, qui a plus aucun sens. Dans la BD, c'est Spider-Man qui donne des leçons de morale à Iron Man. C'est jamais l'inverse. Et là, maintenant, bon, écoutez.
Hein. Ah, je le trouvais aussi, on dirait un enfant, en fait, dans Avengers. Mais j'ai pas vu le deuxième Endgame, mais j'ai vu le premier. J'avais vraiment ce sentiment-là. Il est presque pas là. Et quand il est là, c'est vraiment un enfant.
Bah ouais, ouais. C'est assez. Oui, ouais, c'est assez étrange. Je vous propose qu'on avance un petit peu. On va se mettre une petite pause avec une petite musique d'entracte. C'est Love Me Right par Adrian Wave. Et c'est de la Vaporwave. Et la Vaporwave, comme l'a dit un YouTuber il n'y a pas longtemps, c'est la musique anticapitaliste. Love Me Right. Ce très bon morceau de Vaporwave. Alors pourquoi Vaporwave, c'est de la musique anticapitaliste, on me demande. Je vais vous retrouver le lien, mais c'est un très bon youtubeur qui a fait une longue vidéo sur le sujet. Je vous mettrai ça dans le chat après la discussion. Donc pour revenir sur ces personnages de fiction qui nous ont touchés, qui nous ont façonnés, et est-ce que toi, Ellie, soit dans Carlos, soit dans Porco Rosso, est-ce que tu, en regardant par la suite ou en y réfléchissant, est-ce que ces personnages, ils peuvent avoir des défauts qui te disent « Ah, il est peut-être pas aussi bien que je l'aimais, aussi bien que je le trouvais », qui te donnent peut-être même l'envie d'abandonner ce personnage ?
Alors, pour Carlos, ben, clairement, il est peut-être un petit peu trop cynique. Donc, c'est un personnage qui restera mal dans mon cœur, probablement. Mais ouais, pour moi, il est un peu trop cynique et j'aime pas trop sa conclusion, enfin son développement, finalement, même s'il est un peu émotionnel. Et pour Porco Rosso, ben, en fait, il reste fidèle à ses valeurs qui sont anticapitalistes et antifascistes. Donc, enfin, pour moi, c'est une valeur absolue. Mais c'est aussi, enfin, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il est misogyne et que il s'est pas vraiment déconstruit là-dessus. Alors, je vais prendre un autre personnage. Du coup, ça fait trois personnages maintenant. Je vais prendre plutôt Dame Eboshi dans Princesse Mononoke parce que elle est plutôt féministe et elle fait. Elle a construit toute une cité pour les femmes et les personnes qui sont mises de côté. Donc les personnes que la société ne veut pas. Et en fait, elle se rend pas compte qu'elle détruit la nature. Et à la fin du film, elle se rend compte que genre c'est mon idéologie qui est plutôt destructiviste parce qu'elle détruit en fait plutôt que de vivre avec. Elle comprend que c'est pas la bonne solution. Et du coup, pour moi, le développement de Porco Rosso, du port rouge, est moins intéressante que du coup celle de Dame Eboshi qui comprend vraiment ses torts tout en restant très fidèle à ses idéaux qui sont des idéaux féministes. Mais après, les personnages de Hayao Miyazaki en général, ils sont bien construits et ils évoluent, ils ont pas tendance à rester dans des cadres et ils comprennent un peu la société en général et ils comprennent pourquoi la société elle pue la merde et pourquoi elle est bien quand elle est bien. Et du coup, ouais, Porco Rosso, je m'éloigne peut-être un peu plus de lui.
Toi, Alissa, V pour Vendetta, tu le disais, c'est un personnage un peu bloc, comme ça, un peu monolithique. Est-ce que parfois il y a des choses dans ce personnage qui te donnent pas envie, qui te dégoûtent peut-être même?
Ouais, j'ai essayé de rebondir sur le personnage de Dame Eboshi, mais mon son était coupé, donc ça n'a pas marché. Mais du coup, pour revenir là-dessus deux secondes, c'est vrai qu'il y a vraiment un truc. Je l'ai vu assez. Je l'ai pas vu très jeune, Princesse Mononoke. Mais je trouve il y a souvent une espèce de dans beaucoup de films de que ce soit de super-héros ou enfin dans beaucoup d'œuvres de fiction, il y a souvent entre les gentils et les méchants. Au final, il y a toujours une espèce de volonté de flouter le qui a raison, qui a tort, pour créer une espèce de dilemme moral vis-à-vis du spectateur ou de la spectatrice. Et souvent, ça m'a toujours un peu laissé de marbre ce genre de procédé, parce que j'ai souvent trouvé que, bah, oui, d'accord, mais au final, le méchant, c'est quand même le méchant, et le gentil, c'est quand même le gentil, quoi. Alors que dans Princesse Mononoke, j'ai vraiment, enfin, je l'ai découvert un peu tard et du coup j'analysais ça vraiment comme étant le méchant est pas vraiment méchant, le gentil est pas vraiment gentil. Et là, à la fin, j'étais toujours pour aucun des deux camps, quoi. Et enfin, ou alors j'étais pour les deux. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé que dans la construction du personnage de Dame Eboshi, il y avait vraiment quelque chose de très fin et de vraiment très spécial. Et je te rejoins vachement là-dessus, Ellie. Et en effet, c'est un personnage droit dans ses bottes et qui en plus amène une réflexion féministe qui est assez peu représentée au cinéma, j'ai l'impression. Et une figure très forte. Qui fait vraiment plaisir à voir.
C'est pas super étonnant, on se rappelle que ça vient de Hayao Miyazaki, qui dès 2015 dénonce la violence que les manifestants français subissent. J'ai revu ça passer il n'y a pas très longtemps, c'était impressionnant que Hayao Miyazaki se permette de réagir là-dessus. Et du coup, toi, sur Vendetta, comme ça, moi je réagirais aussi sur ton vaisseau Vendetta.
On se partage la parole, c'est beau. C'est ça l'autogestion. Oui, en effet, il y a des défauts vis-à-vis du personnage de V dans V pour Vendetta. Il y a deux trucs qui m'ont fait un peu me questionner sur mon rapport à ce personnage-là. Déjà, il est un peu trashouille, quoi. Il tue des gens, ce qui est pas, voilà, dans l'absolu, quelque chose de forcément enviable. Et puis, donc, no spoil, mais il fait subir des choses pas top aux personnages de Heavy, qui ont pour moi l'objectif de dire que il faut subir les violences de notre société pour réellement être révolutionnaire. Enfin, c'est comme ça que j'ai interprété ce passage-là. Donc voilà, mais voilà, il y a quelque chose de vraiment radical et vraiment peut-être trop radical dans le personnage de V, et je pense que c'est une volonté de l'auteur. Et il y a un autre truc qui m'a fait me questionner aussi à ce propos, c'est que c'est un super-héros. Moi, j'ai un peu évolué dans les milieux libertaires, et j'ai côtoyé des gens qui me disaient que la figure du super-héros, c'était un truc de droite. Bon, voilà. Ce que en soi, je trouvais pas faux. Parce que la figure... Oula, je sens que ça vous fait réagir. Parce que la figure de je sais pas, de un homme, parce que c'est souvent un homme, et là en l'occurrence c'est le cas, de un homme blanc qui va sauver la veuve et l'orphelin, c'est un truc très individualiste, ça questionne pas pour autant les fondamentaux de notre société, et c'est complètement, c'est un peu anti-collectif, quoi. C'est une seule personne toute seule qui va faire des trucs incroyables sans pour autant qu'il y ait de lien. Alors, bien sûr, enfin voilà. Cette figure-là du super-héros, auquel n'échappe pas V de V pour Vendetta, en effet, c'est un truc que j'ai questionné pendant un temps. Et toujours maintenant, d'ailleurs.
C'est un peu là-dessus que j'allais rebondir, du coup, parce que moi, V sur Vendetta, je ne l'ai jamais vu, j'ai jamais lu la BD, je ne connais pas du tout. Mais par contre, ce que je connais, c'est que c'est l'image de Guy Fawkes, c'est le masque Anonymous. Et ce que j'ai constaté en évoluant, en fait, un peu dans des milieux, bon, moi, ça n'a pas été dans des milieux libertaires que j'ai évolué, ça a été dans des milieux collapsologues. Et en fait, dans ces milieux collapsologues, tu rencontres vraiment de tous bords politiques, mais tu rencontres vraiment pas mal de complotistes et pas mal de gens qui sont d'extrême droite. Et en fait, c'est une figure assez récurrente, en fait, Guy Fawkes, en mode, de toute façon, moi, j'aimerais bien faire un attentat, ou vraiment, c'est des discours qui sont tenus par des anciens militaires, en mode, c'est ce genre de personnage qu'il faudrait pour remettre de l'ordre. Donc, s'il voudrait une figure d'autorité, une figure révolutionnaire qui permette de réinstaurer un espèce d'ordre républicain, ou je sais pas ce qu'ils pensent exactement, genre c'est pas mes idées politiques et c'est pas mon but non plus, donc je me suis pas intéressé plus que ça, mais c'est un peu ce qui en ressortait, en fait, pour moi. Et c'est pas anodin, hein. Je pense que l'extrême droite aime se réapproprier autant un personnage qui est très ambigu. Après ils reprennent aussi ailleurs, comme dans j'ai oublié, j'avais le mot en tête, j'avais la série en tête, mais ils reprennent d'autres personnages qui sont censés être révolutionnaires et le reprennent avec une idéologie très intense, quoi.
Mais c'est un truc, c'est quelque chose. D'ailleurs, c'est traité dans la vidéo, donc sur l'auteur de V pour Vendetta qui s'appelle Alan Moore, qui est un auteur de comics que j'apprécie beaucoup, mais qui est aussi une figure un peu controversée. Hein. Et c'est Bolchegeek qui a fait une vidéo sur lui qui est très cool. La liste des liens qu'on va vous mettre sous cette, enfin, suite à cette émission va être infinie. Mais je trouvais sa vidéo très cool. Et en effet, il parle de cette dimension, du personnage de V qui a échappé à son auteur, constatait qu'il y a eu une vidéo assez connue de lui qui dit à des jeunes qui ont le masque de Guy Fawkes machin et qui sont en train de faire une manifestation pour je sais pas quoi un truc, c'est pas une manif, c'est un truc culturel, je sais pas quoi, et qui leur dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Enfin, il y a un truc derrière, ou pourquoi vous mettez ça? Et c'est vraiment, ça lui a échappé, je sais pas s'il en est très peiné, mais en effet, c'est vraiment un truc qui a échappé à son auteur, qui, de base, il me semble marxiste ou un truc comme ça, donc qui est vraiment politisé à gauche.
Mais du coup, est-ce que Peter Parker a échappé à son auteur?
Est-ce que Peter Parker a échappé à son auteur? C'est une bonne question. Son auteur, déjà, c'est Stan Lee, hein, qui est mort il y a pas longtemps. Oui. En plus, le mode de production des comics américains fait que le personnage n'appartient pas à son auteur. Donc, chaque nouveau scénariste peut amener un personnage vers d'autres endroits. Et on peut se retrouver avec des héros qui passent d'un semble-t-il d'un bord à l'autre, même si c'est compliqué de parler de bord pour des personnages de fiction. Il y a eu des parties de Spider-Man où il perdait l'espèce de doute vis-à-vis de sa propre légitimité. Peter Parker, c'est le syndrome de l'imposteur fait super-héros, ce qui est aussi ça qui est bien. Il est toujours sur la brèche, dans la nuance. Et parfois, il perd ce doute. Et c'est d'ailleurs assez marrant parce que ça fonctionne par arc, hein, les comics, souvent, comme dans les mangas. Et il y a eu des arcs qui cassaient, où en fait, le personnage... il y a la mort de Gwen Stacy, par exemple, ce qui est son premier amour. Et à partir de ce moment-là, il remet en question son implication. Il y a d'autres moments où des personnages meurent. Il y a eu un arc qui date il y a quelques années où il a décidé. Il trouvait qu'il a fait. Des gens sont morts à cause de lui et il s'est dit je fais trop le malin, je fais trop le kéké. Et donc à partir de maintenant, plus personne ne va mourir quand je suis présent. Et donc il y a toujours des espèces d'allers-retours qui sont liés au scénariste et sans doute au contexte. Hein. Il y a un personnage. Un peu plus lisse, qui s'appelle, que connu hein, maintenant, qui s'appelle Captain America. Et Captain America, à un moment, il devient fugitif de l'État américain puisqu'il refuse de se faire enrôler. Donc, tout n'est pas aussi lisse qu'on pourrait croire dans ces personnages. C'est pour ça que moi je les aime, parce qu'au-delà de l'idéal à la V pour Vendetta, je trouve que parfois ils créent des failles qui sont assez agréable en tant que lecteur de gauche, qui est pas face à des trucs qui sont des blocs monolithiques de culture américaine. Il y a quelques auteurs qui créent des failles, qui font qu'on tombe amoureux un peu de ces personnages et que eux-mêmes ils rentrent en nous-mêmes, quoi. Ils nous façonnent.
J'ai une question, du coup, tu as évoqué Captain America et la Captain America, l'analyse que j'en ai, c'est qu'à la base, le personnage, c'était utilisé comme entre guillemets de la propagande contre le nazisme, mais c'était aussi pour caricaturer les dangers du capitalisme. Donc c'était aussi pour caricaturer la propre culture américaine. Et j'ai l'impression qu'il est devenu sa propre caricature, dans le sens où il a été utilisé au premier degré et pas au degré où il était intentionnellement créé, qui était de critiquer cette société de consommation. Et du coup, est-ce que Peter Parker, vu que je le connais moins et que toi tu le connais un peu plus, enfin, ou Spider-Man comme tu préfères, est-ce que Peter Parker est tombé un peu dans ce même travers? Il a perdu de sa beauté, de son origine.
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec le Spider-Man Avengers, quoi. Il est devenu ce personnage fun, un peu premier degré, qui n'a pas trop de soucis, c'est le fun de la jeunesse, etc. Alors qu'au départ, c'est pas du tout ça. C'est les difficultés... difficultés financières, son oncle est mort, et donc il est devenu ce truc uniquement fun, alors que Peter Parker, je pense, dans l'écriture de Stan Lee, Peter Parker, c'était ce héros qu'on a tous en nous et que si on se souvient les autres ont besoin d'aide, il va émerger. Et parfois, non, Spider-Man, c'est devenu ce mec à qui tout réussit et pas juste celui qui a trouvé en lui les ressources. Voilà.
Je retiendrai ces mots. Je pense que tu m'as convaincu de lire Spider-Man.
c'est difficile de rentrer dedans parce qu'il y a plein de trucs différents. Mais pour aller un peu plus loin, il y a l'historien William Blanc. Pour donner une autre ressource, William Blanc, il a sorti il y a quelques années un bouquin qui s'appelle « Super-héros, une histoire politique » chez Libertalia. C'est pas mal, il rentre dans l'histoire des personnages, dans leur évolution, pour savoir d'où ils viennent et comment ils ont été utilisés. « Super-héros, une histoire politique » de William Blanc. Et je voudrais finir, parce qu'il nous reste 5 minutes, hein, même pas, on a parlé un peu de Alan Moore, ce marxiste, Hayao Miyazaki qui doit être une sorte de
syndicaliste,
ouais, écologiste, humaniste japonais, je sais pas comment dire, mais en effet Bolchevik a fait une très bonne vidéo à la fois sur Alan Moore et à la fois sur Hayao Miyazaki, donc
qu'est-ce qui est fort.
Ouais. Et est-ce que parfois l'auteur quand on découvre l'auteur, est-ce que parfois on perd son personnage et je vais revenir un petit peu sur la polémique J.K. Rowling. J.K. Rowling, on sait, c'est un auteur qui nous a fait perdre, pour un certain nombre d'entre nous, le plaisir de Harry Potter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que Ellie, toi, tu avais un avis ferme sur le sujet.
Malheureusement, c'est ce qu'on distingue l'œuvre de l'artiste. Et moi, je dirais que le compte en banque n'est pas dissocié le compte en banque lié à l'œuvre n'est pas dissocié au compte en banque de l'artiste, malheureusement.
Et c'est dommage.
Ce qui est dommage, ça pourrait servir à la communauté à écrire de nouveaux livres qui sont bien mieux. Mais malheureusement, J.K. Rowling, c'est vraiment un cas particulier parce que il y a les auteurs, enfin les auteurs, on sait qu'ils sont vraiment discutables, ils sont vraiment des personnes très mauvaises qui ont commis des actes horribles. Et il y a les personnes qui dépensent de l'argent et font littéralement de la propagande mondiale. Pour faire du mal à un groupe de personnes. Pour le cas de J.K. Rowling, on va mettre les mots, c'est littéralement des campagnes campagnes transphobes en fait qui sont là pour qui peuvent être après justifiées pour des meurtres transphobes ou genre de la discrimination usuelle transphobe. Et ce que je trouve beaucoup plus grave et une échelle beaucoup plus importante que Alan Moore qui est un vieux gars un peu sexiste qui est perdu dans son coin, qui a refusé de déménager, tu vois. C'est là où est l'enjeu, quoi. C'est l'échelle à laquelle sa propagande touche, quoi.
Il y a tout ça, et puis je lisais un article là-dessus il y a quelques temps. Il y a en plus la trahison, parce qu'il y a des centaines de milliers de gens qui ont grandi avec ces personnages, qui les ont aimés. Et quand on découvre l'auteur, parfois, voilà, ça nous retire ce personnage et ça nous retire une part de nous-mêmes.
Je pense que le plus décevant, enfin, outre tout ça, c'est un truc encore plus qui rajoute encore un peu de tristesse, c'est qu'il y a des gens qui s'aiment à faire des théories, tu vois, les théories de fans, comme par exemple tel ou tel personnage est trans, tel ou tel personnage est lesbienne, gay, ou il y a un couple qui est gay. Et il y a une des théories qui m'avait vraiment beaucoup plu et qui a plu énormément à la communauté trans, c'était que Neville, en fait, c'était un mec trans. Parce que justement, on se foutait de sa gueule, on lui disait qu'il était gros, et quand en fait il devient plus âgé, il devient giga badass. Et c'est quelque chose que j'ai revu passer. Et en fait, J.K. Rowling s'est senti obligé de démonter publiquement dans un tweet que Neville n'était pas un homme trans. Ce qui est vraiment triste qu'au moment où genre ton œuvre t'échappe et tu te sens obligé de reprendre les fans qui aimaient ton œuvre et qui trouvaient un peu de vérité, un peu plus de joie pour eux-mêmes, hein, ou bien pour le bien général, et tu te sens obligé de démonter ces gens qui faisaient rien à ton œuvre finalement.
Bon, moi je comprends pas très bien le lien que vous faites entre J.K. Rowling et Harry Potter, parce que moi il me semble que Harry Potter a été écrit au choix soit par Hatsune Miku, soit par Daniel Radcliffe, il me semble, aux dernières nouvelles. Mais oui, je vous rejoins tout à fait. Et moi, bah, à titre personnel, j'ai lu tous les Harry Potter, les films Harry Potter que j'ai découverts assez tard d'ailleurs. C'est des très très bons souvenirs C'est des rares fois où j'étais avec toute ma famille et on a regardé ça pendant qu'on était en vacances quelque part. Donc c'est vraiment des super souvenirs. Et en effet, bah, j'ai découvert, je sais pas, c'était il n'y a pas si longtemps que, moi, j'ai, que personnellement que j'ai découvert qu'elle était transphobe, machine. C'était vraiment, c'est vraiment ah ouais, d'accord, bah, super. Et puis, plein d'infos qui s'accumulent. Et puis au bout d'un moment, ah oui, en plus, elle démonte des théories de fans à la con, enfin, qui font de mal à personne. Et puis. Et oui, d'accord, elle fait de la propagande anti-trans, super. Donc, en tant que, donc moi en plus en tant que personne trans, bah, ça, enfin, ça pique d'avoir. Et en effet, ça rejoint ce qu'on disait sur la mort de l'auteur et on en parlait justement avec Mal de la technique ce soir, que d'ailleurs on remercie.
Qui confirme très fort. Qui confirme, notre technique confirme que ça a été écrit par Daniel Radcliffe, les Harry Potter.
Ah, bon, bah voilà. Et bah, si tout le monde est d'accord, on parlait de qui déjà?
Moi, Daniel Radcliffe, For Life, même les mauvais films comme Guns Akibo que Pandov a regardé ce soir. Voilà.
Oui, je suis d'accord. T'as des infos quand même. Voilà. Et Intouchable 2 aussi. Intouchable, Insaisissable 2.
Voilà, dès qu'il est pointe une mèche de cheveux, moi je suis amoureux, c'est fini.
C'est fou. Il dégage tout ça. Chose, ce mec.
Ouais, oui. C'est son côté un peu trapu, je pense, pour moi. Mais on s'égare. Je vais essayer de faire une sorte de conclusion, parce que c'est toujours bien que l'animateur fasse une sorte de conclusion. Je dirais que les personnages vivent dans nos cœurs et nos âmes, et que ils échappent à leur auteur, voilà. Celle dont on ne doit pas dire le nom n'a plus aucun droit sur ces personnages et j'espère que les fanfics les feront vivre des histoires et des aventures bien mieux que celles qu'elle ne veut plus écrire. D'ailleurs, de toute façon, quand on voit Fantastic Beasts, c'est bien heureux qu'elle arrête.
Il y a une fanfiction Harry Potter avec des lesbiennes, des gays, des personnes trans. Il y a tout. Et franchement, et c'est une fanfiction qui est faite avec des comptes Twitter et des screenshots des comptes Twitter et des échanges qu'ils ont eus. C'est absolument merveilleux. Si vous retombez dessus, moi je ne saurais pas retomber dessus, mais c'est absolument merveilleux. Si vous aimez Harry Potter, si vous aimez cet univers, tombez sur cette fanfiction. Ça m'a sauvé la vie au moment où j'étais complètement désespéré de cet univers.
Donc faites-vous plaisir, découvrez plein de nouveaux personnages de fiction parce qu'ils vont vous remuer, vous amener vers d'autres lieux. Alissa, un mot de conclusion?
Quoi, comme ça
Si Alissa, pour ce mot de conclusion.
Bah, j'espère que...
Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, j'espère qu'on vous aura fait découvrir des trucs déjà ce soir. Donc je le disais quand on préparait l'émission, la voix de Monsieur Crabbe me faisait peur, donc j'ai jamais eu envie de regarder Bob l'éponge. Bah là, ça y est, là, maintenant je suis tenté. Donc j'espère qu'on vous aura tenté avec des trucs. Et voilà.
Et voilà. On remercie donc Mal à la technique. Merci à toi. Salomé à la modo, me semble-t-il. Et cette semaine, sur toute l'équipe de Radio Pirate qui est toujours là pour soutenir les émissions, vous toutes et tous qui nous écoutez avec attention tous les jours. Et puis, on vous lâche avec une autre musique un peu de geekos, parce que la première, pour ceux qui avaient reconnu, c'était le générique de Spider-Man de 94 qui était remixé sauce trap. Et on se quitte... avec un remix de Zelda, Ocarina of Time, la remix de la chanson du Lon Lon Ranch. Bonne soirée à toi, Alissa.
Bonne soirée, tout le monde.
Et bonsoir, Ellie.
Et bonne soirée. Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver demain soir à 21h.
C'est vrai.
Ce sera dédié à Aya Nakamura.
Voilà, pour quelle raison aimer Aya Nakamura? Voilà, faites-vous plaisir, écoutez-nous encore demain. Allez, bonne soirée et Legend of Zelda.
Radio.
Radio. Radio. Radio. Radio.
Pirate!